Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. On va passer au thème de la semaine, Lucas, et le thème de la semaine, ce sont les trophées de la saison NFL. Je me suis ouvert un petit onglet pendant que je te parlais pour avoir de quoi faire des sondages, parce que ce sont aussi les membres du chat qui vont voter. Je ne retrouve pas le truc des sondages. Je vais retrouver ça petit à petit. J'ai lancé un raid, faire une coupure pub, la coupure pub. Ah, gérer les sondages, voilà. Donc, Lucas, on va parler des trophées de la saison. Je te propose qu'on fasse dans l'ordre inverse d'importance, comme ça on se garde le MVP pour la fin. Voilà, un petit truc un petit peu... on fait monter le suspense quoi au fil du stream. Et on va commencer, sans plus tarder, Lucas, par parler des coachs. On va commencer par les coachs. Sujet plutôt d'actualité, parce que je crois qu'on avait quelques-uns des prétendants là qui étaient dans les équipes dont on vient de parler.
Ouais, et globalement, j'ai presque même envie de te dire que pour moi, ça se joue sur le match dont on vient de parler.
Entre Sirianni et
Brian Daboll, ouais.
Ok.
Ouais, je... Bon, Sirianni, voilà, c'est le coach qui déjà coach l'équipe qui a fini avec le meilleur bilan. Donc c'est pas anodin. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un coach qui a réussi à faire progresser son équipe d'une année sur l'autre. Alors je sais qu'on parle de cette année-là. Mais j'ai du mal à le mettre ça de côté. Il a réussi à faire progresser son équipe avec globalement une équipe relativement similaire. Et AJ Brown est arrivé, certes, ça aide le quarterback, ça aide l'attaque. Mais c'est une équipe qui est quand même sensiblement pareille et il a réussi tout de même. On se rappelle en début de saison, on a toujours un peu ce biais de la fin de saison, mais on se rappelle la début de saison, voire même la première moitié de saison, qui doit compter à 50% dans la décision. Les Eagles sont incroyables, vraiment. On l'a dit, hein, ils étaient bons des deux côtés du terrain. On se demandait bien qui pouvait les battre. Franchement, voilà, il y a eu cette blessure de Hurts qui a un peu heurté justement le bilan. Mais franchement, voilà, c'est une équipe. Donc c'est pour ça que pour moi, de facto, la meilleure équipe, le meilleur coach peut être dans la meilleure équipe. Et puis il y a Brian Daboll, parce que voilà, c'est mes deux candidats pour moi. Après, ça, peut-être que tu en auras d'autres, mais Brian Daboll, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout. C'est un coach qu'on ne connaissait pas du tout, ou très peu, surtout en tant que head coach. Et on a vu que voilà, et surtout, j'ai trouvé qu'il a réussi à donner du caractère à cette équipe. Et pour moi, c'est vraiment voilà. J'ai vu surtout une équipe de caractère, une équipe qui arrivait à gagner des matchs serrés, qui lâchait jamais, qui était peut-être un peu plus limitée en talent, mais qui arrivait à accrocher des matchs. Et surtout, voilà, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui est impulsé par le coach, le coaching staff. Et surtout, ça n'était pas forcément l'année dernière. Donc je me dis, il a eu une part prépondérante dans le succès des Giants. Je sais qu'il faut pas particulièrement compter les playoffs parce que c'est
oui. Alors voilà, c'est ce que j'allais rappeler. Voilà. Attention, hein, on vote comme si on venait de finir la saison régulière.
Je suis d'accord. Et même si la saison régulière s'est arrêtée, je pense que c'était tellement surprenant de voir les Giants à ce moment-là que j'aurais dit Daboll et la suite m'aurait peut-être donné raison.
Alors je vais te dire, moi mon candidat, en effet, ça irait vers Brian Daboll parce que c'est probablement celui qui a fait le plus avec le moins. C'est un peu ma définition du coaching, honnêtement. C'est un peu mon critère. Après, le problème, c'est que c'est quand même une année exceptionnelle, je trouve, en termes de candidat coach de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des années où on était un peu par défaut, on savait pas trop est-ce qu'on prend un Belichick ou un machin parce qu'ils sont en haut, etc. Là, t'as quand même, en plus, je rajoute à la liste, mais Pete Carroll et les Seahawks. Franchement, personne n'attendait les Seahawks en playoff.
Non, clairement.
Personne n'attendait les Seahawks en playoff. Avec Geno Smith, qui plus est, qui bat tous les records de franchise de Russell Wilson. Enfin, voilà. Un jeu au sol qui renaît. Il a eu une ligne offensive correcte. Enfin, il s'est passé quand même des trucs incroyables du côté de Seattle. Kyle Shanahan est tête de série numéro 2 avec son troisième quarterback à la fin, quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'un système est mis en place et on peut mettre, c'est souvent ce qu'on dit, mais n'importe quel joueur,
c'est ça.
Le système marche bien, c'est souvent aussi symbole d'un coach qui est plutôt bon.
C'est ça, donc on en attendait un peu plus, mais quand même, c'est assez délirant. Dan Campbell, c'est, pour moi, il n'est pas dans la liste et je ne le mettrai pas dans le sondage pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas en play-off. Et je pense que pour être coach de l'année, c'est quand même un minima, mais ils étaient bien remontés. Et puis, bah, on vient d'en parler, Doug Peterson quand même aussi, qui attendait vraiment les Jaguars en play-off.
Oui. J'ai même envie de rajouter peut-être Kevin O'Connell. Hein. Alors,
et Kevin O'Connell, oui, ils sont à 13 victoires.
Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur les Vikings, et en effet, ils se sont éliminés, mais on doit juger que la saison régulière. Et en effet, on se disait que peut-être le bilan était meilleur que ce qu'ils proposaient, mais bon, le bilan, il est ce qu'il est. Et surtout, c'est encore une fois, je regarde beaucoup ça, c'est globalement la même équipe que l'année dernière. Mmh. Franchement, il n'y a pas de différence notable ou vraiment. Et pourtant, il a réussi à faire performer ses joueurs là où Mike Zimmer n'y arrivait plus. Mmh. C'est aussi le symbole d'un bon coach.
Alors, je lance le sondage avec Dabol, avec. Hop, j'ai fait une erreur. Voilà, Dabol, Sirianni, Shanahan, Carroll, Peterson. On n'a pas mis O'Connell, mais on vient de le mentionner. Je pense que ça va se jouer un peu entre les autres. Au niveau des votes, là, ça évolue vite. Tiens, je peux vous mettre ça en. Voilà, vous pouvez voir les votes. Tac, regardez. Hop.
C'est beau.
Vous pouvez voir en direct les votes évoluer. Bon, Brian Dabol a l'air d'avoir un bon avantage. Mais moi, j'irais sur Dabol. Si j'avais qu'un vote, je pense que j'irais sur Dabol.
Allez, moi aussi.
Bon, donc ça semble prendre un avantage assez net. Tous les autres se répartissent un peu les votes. Mais c'est une belle année. Moi, je trouve que c'est une belle cuvée quoi, pour les coachs. Je voulais commencer par celui-là parce que pour le coup, il est quand même assez sexy comme trophée. Prime pour le premier poste de head coach. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est son premier poste à Dabol. Non, il n'avait pas été head coach quelque part.
Non, je crois
non,
que
il a,
c'est son
ou
premier.
Ou un truc d'intérimaire alors. Peut-être. J'ai un petit doute là-dessus. Mike Tomlin, c'est vrai, Red Phoenix le dit dans le chat. Mike Tomlin, bon, il joue pas les playoffs. Donc, mais boulot incroyable, Mike Tomlin aussi. Hein,
ah, pour le coup du coach qui fait beaucoup avec, enfin en tout cas qui fait avec peu, c'est Mike Tomlin, il rentre dans cette catégorie-là.
Bah c'est ça quoi, c'est ça. Donc bon, ça, il y en a qui restent fidèles à Dan Campbell dans le chat. Tomlin a la série toujours en cours. Bon après voilà, on peut pas donner un coach de l'année juste pour une série, hein, mais c'est vrai que Tomlin fait partie des très bons. Autant il y a eu pas mal de coachs virés en cours de saison, autant il y en a quand même beaucoup de méritants cette année. Ça a été un peu tout ou rien, j'ai l'impression, pour les coachs. T'as eu Hackett d'un côté qui a été un des plus gros fails de mémoire récente.
Oui.
Autant, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, autant Mike Tomlin, Brian Dabol, Sirianni, Shanahan, Carroll, Peterson, enfin il y a eu plein de choses. Oui, Josh McDaniels, ça a été moins... moins réussi. Bon, on va entériner la victoire de Brian Dabol avec 48% des votes, voilà.
C'est fait un total de 100 votes exactement, c'est beau ça.
Eh oui, dis donc, bien joué.
Ou peut-être 200.
Dans les 48, 17, tu calcules vite, hein, dis donc.
Non, c'est juste que 48 votes, 48%, globalement, ça fait...
Ah bah oui, bien vu. Oui, tu es beaucoup plus fort que moi. Dabol, donc, vainqueur pour ce trophée de coach. Deuxième trophée, rookie défensif. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup moins de possibilités.
Ouais. Oui, je vais me lancer. Je pense qu'on a plus ou moins le même gros favori, mais c'est en effet, pour moi, en tout cas, le cornerback de New York, Sauce Gardner. Parce que il a réussi à être. On sait que c'est un poste en plus qui peut parfois demander du temps parce que le système n'est pas toujours le même entre ce qu'on fait en universitaire et ce qu'on fait en pro. Et pour le coup, lui, il a de suite, j'ai le souvenir, je ne sais plus si c'était son premier ou son deuxième match, de suite, il s'est imposé. Sur toute la saison, il a été bon, j'ai trouvé. Il a réussi, il a réussi à s'imposer. Et j'ai trouvé que c'est un joueur qui a des capacités de s'imposer dans à peu près n'importe quel système. En plus, un profil de joueur qui est capable de suivre le meilleur receveur ou un receveur très bon un peu partout sur le terrain. Et c'est vrai qu'on en a de moins en moins maintenant de par les systèmes, de par les. Donc c'est vrai que Sauce Gardner, c'est plutôt pas mal.
Moi, rien que pour les jeux de mots, je vois dans le chat quelqu'un qui l'appelle jus de jardinier. j'ai tapé son nom pour chercher ses stats dans Google et je suis retombé sur la fiche TDA. Regardez-moi ça, Masterchef, évidemment. mais j'ai du mal, en effet, à donner quelqu'un d'autre que Sauce Gardner, là, pour le coup. 20 passes déviées, c'est leader en NFL, hein, pour lui, dès sa première saison. Et pourtant, j'ai l'impression qu'en plus, à un moment, on commençait quand même à pas mal l'éviter du côté des coordinateurs. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Je vais lancer le sondage dès maintenant, comme ça, on en débat en même temps. Sauce Gardner, Tariq Woolen, Aidan Hutchinson, Jalen Pitre, c'était les autres que j'ai mis dans le... Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, commencer un sondage. Et je vais mettre le sondage à l'écran pour, donc encore une fois. Bon, Woolen, Hutchinson, Pitre, c'est aussi des très bons joueurs. C'est... N'importe quelle autre année, on a envie de dire, ça se joue entre Woolen et Hutchinson.
Oui. Disons que Hutchinson, par exemple, on va dire que c'est plus, c'est monté en puissance. Oui. C'est surtout sur la fin de saison qu'on a vu le potentiel. On l'a vu depuis le début de la saison, mais c'est vrai que il a commencé vraiment à être très bon en fin de saison et du coup, c'est très prometteur pour l'avenir. Je pense que ça peut devenir un très bon joueur. Ça l'est déjà, mais en effet, si on joue sur une saison, je vais donner peut-être la priorité à un joueur qui a été bon peut-être dès la semaine 1, qui a eu pas beaucoup de trous, comme tu l'as dit, et du coup, c'est pour ça que, en effet, devant Hutchinson, Woolen aussi, mais c'est pareil, Woolen, peut-être ça s'est construit au fur et à mesure de la saison. On a commencé à se dire oui, peut-être que c'est pas mal, puis on a commencé à le regarder un peu plus sérieusement, et puis on s'est dit oui, en fait, en effet, c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que là, voilà, là où Gardner, ça a été bon, il faut qu'on le regarde, et puis dès la semaine 1, ça a été très bon.
Je vois dans le chat que certains disent qu'ils ne l'ont pas. A priori, ça peut être un bug, hein, des fois. Tous les sondages ne s'affichent pas toujours. C'est-à-dire que Jeff Bezos, il prend des grosses coms, mais il n'optimise pas des masses le truc. Hein. On ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Mais il y a beaucoup de votes qui rentrent, a priori. Moi, je l'ai. Il s'affiche bien. Alors,
pour le coup, je ne l'ai pas. Je vais pas pouvoir voter, mais vous avez le mien.
Bah écoute, il y a peut-être un bug de temps en temps, mais on est à une centaine de votes là, comme tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est encore une fois c'est Jeff Bezos, hein, le service après-vente. Hein. Je suis désolé.
Je l'ai, ça y est.
Ah, tu vois.
Sauce Gardner pour moi. Bon, voilà. À voter.
Je suis sur téléphone. Bah je vous dis, ça dépend des gens. Mais ouais, Jeff, il va dans l'espace. Ah oui, mais je peux voter aussi. Tiens, dis donc, j'avais même pas vu que je pouvais voter moi dans les trucs. Allez hop, Sauce Gardner. Mais bon, celui-là, il me paraît évident. Je sais pas pourquoi il est si long, d'ailleurs. Mais ouais, passer Trayvon Walker, son statut numéro 1 n'a pas suffi.
Oui, c'est vrai que...
Il est monté pourtant, en puissance aussi, au fur et à mesure.
Oui, et pourtant, dans une équipe qui... Des fois, on peut se dire, c'est une équipe qu'on regarde pas, qu'on regarde peu, parce que c'est l'équipe qui est très haut dans la draft, et donc, du coup, bah, elle est pas bonne, et qu'on va pas beaucoup la regarder. Pour le coup, ça n'a pas été vraiment le cas. Et c'est vrai qu'il a eu des... Je pense que c'était un peu trop irrégulier. Il est monté en puissance, mais plus en milieu de saison. Puis d'un coup, ça a été un peu plus compliqué. J'ai trouvé que c'était vraiment en dents de scie. Mais c'est vrai que par contre, quand il a été bon, il a été très bon. C'est vraiment quelqu'un qui peut mettre le bordel, permettez-moi l'expression. Mais je pense que c'est trop juste. Même moi, ouais, pour être dans les quatre là, c'est un peu trop juste.
Petite info, Gringali nous dit sur le chat qu'il faut actualiser le chat en fait à chaque sondage. Voilà, ouais. Si vous voulez avoir le vote, on va terminer le sondage là. 80 votes, soit 78% pour Sauce Gardner. Comme ça, on va pouvoir avancer et passer au vote suivant. Et je vais lancer un nouveau sondage pour le rookie offensif de l'année. Lucas, là on a beaucoup de receveurs, moi j'ai l'impression. Je vais donner tout de suite les possibilités. Tiens, tu vas me dire si j'en oublie. Garrett Wilson, Chris Olave, je tape le sondage en même temps, regarde. Garrett Wilson, Chris Olave, Dameon Pierce, Kenneth Walker. Alors c'est des joueurs qui ont connu des blessures malheureusement, mais qui ont quand même fait une bonne saison. Est-ce que je rajoute Christian Watson ou quelqu'un d'autre? Christian Watson, c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, ouais. Ouais, ouais,
ça, mais c'est... fin de saison, Christian Watson, c'est un peu le...
Ouais, ça a été... Ouais, milieu de saison, ouais, milieu fin de saison, c'est vrai qu'il a un peu explosé un peu plus tard. Oui, ça paraît en tout cas, j'essaye de me balayer un petit peu.
En fait, il y a beaucoup de monde, on nous suggère, alors Breece Hall, mais c'est sur une demi-saison, Allgaier sur le coureur des Falcons, je crois que c'est un des rares d'ailleurs, je me demande si c'est pas le leader hein, sur les yards au sol du coup, avec le jeu de massacre que ça a été au niveau des blessures, je crois qu'Allgaier a terminé pas, numéro 1. Brock Purdy est rookie, mais c'est pareil, c'est 5 matchs quoi.
Brock Purdy, honnêtement, tu lui donnes, c'est 5 matchs, tu lui donnes peut-être 2 matchs de plus, il est très nettement dans la course. Je ne sais pas s'il l'est.
Mais en fait, il y a beaucoup de joueurs. Moi, je veux bien. Par exemple, ça parle beaucoup de Pacheco sur le chat. Mais Pacheco, c'est fin de saison aussi, quoi. Il arrive très très tard, quoi. Pacheco, il a 830 yards sur le total de l'année. Je crois que c'est Allgaier qui doit avoir le plus gros total, si je ne dis pas de bêtises. Il a 1035 yards. Donc, c'est pas évident, en fait, je trouve, de choisir d'en choisir 5 à mettre dans le sondage, parce que Pierce exceptionnel mais il se blesse. Je dirais que Wilson, Olave, Walker sont les trois principaux, parce qu'ils ils font toute la saison.
Et puis c'est pareil, hein, le running back des Jets, Hall, qui se blesse et qui est out pour quasiment la moitié de saison. Tu te dis, il fait un début de saison tellement bon que
Je vais lancer le sondage là-dessus. Je vous ai mis Wilson, Olave, Walker, Watson et Breece Hall. Allez, parce que c'est vrai que c'est un peu dur. Au final, on dit ah oui, mais Watson, il est monté en puissance qu'en fin de saison, ou Allgaier qu'en fin de saison, etc. Mais Breece Hall, c'était en début, mais c'est qu'une moitié aussi en soi. Hein.
Mais c'est ça. En fait, c'est la même moitié. Enfin, c'est la même chose. Donc.
Ouais, ouais.
Mais moi, je vais partir sur Garrett Wilson pour ma part.
C'était mon choix aussi. C'est pas une option.
Parce que en effet, peut-être que le pic est peut-être pas aussi haut que certains. Watson, par exemple, a fait des matchs ou un match peut-être qui était meilleur que n'importe quel autre match, mais sur la saison entière. Sur aussi, on va dire, l'environnement. On rappelle que Garrett Wilson, quand même, il commence avec un quarterback, puis Zach Wilson revient, puis ça change, puis White, puis Wilson est de nouveau là. On a clairement vu que Wilson ne fonctionnait pas avec Wilson, donc c'était aussi difficile avec lui. Et finalement, il finit avec plus de 1000 yards, 1100 yards ou quelque chose comme ça, peut-être
1103.
Un peu plus.
1103.
Ouais, donc à peine plus. Donc ouais, c'est 4 touchdowns, un potentiel énorme. Voilà, et puis c'est aussi révélateur de se dire que pour l'instant nos deux favoris de rookie défensif, rookie offensif, ils sont chez les Jets. C'est plutôt une bonne draft pour New York.
Clairement, on avait balayé le premier tour avec Jean-Michel Boujard récemment au niveau des drafts un an après. Clairement, la QV, on avait fait que le premier tour, mais si on fait par QV, il est clair que Seattle et New York ont fait deux trucs exceptionnels. Moi, c'est Wilson aussi le choix. Hein, 83 réceptions, 1103 yards, 4 touchdowns, comme vous êtes nombreux à le rappeler sur le chat, avec Mike White, Joe Flacco, Zach Wilson. Excusez du peu. Alors, Chris Olave vient de remporter le choix des auditeurs, donc on respecte le choix des auditeurs. Après, c'est un très bon choix aussi, hein, Chris Olave. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'avais la fiche de Sauce Gardner, tiens, qui était encore ouverte. Si je vais voir Chris Olave sur Pro Football Reference, juste pour se rappeler, cette saison, c'est 1042 yards. Donc, c'est même c'est un poil moins. 1042, oui, oui. 1103 pour Wilson, 4 touchdowns également. Bon, après, c'est très très bien aussi. On va pas faire semblant que Dalton et Winston cette année c'est incroyable. Donc, Olave, moi c'était mon deuxième choix.
Moi, le deuxième choix, ça aurait été plutôt Kenneth Walker. Parce que en effet, la ligne offensive n'était pas forcément la force annoncée des Seahawks. Et pourtant, Geno Smith a été bon, mais il a été aussi aidé. Donc, moi, mon choix 2, c'était Kenneth Walker. Mais Chris Olave, c'est vraiment pas déconnant.
Alors, on arrive au titre. Alors, j'ai peur qu'il n'y ait pas du tout de débat pour celui-là. Je suis en train de préparer tout de suite le truc. Défenseur de l'année. Ouh là là, mais qui va-t-on bien pouvoir choisir? Je suis en train d'en rajouter quand même sur le... Tiens, j'en rajoute un qui est moins discuté, mais tiens, on va le mettre. Allez, hop. Je mets un sondage de... 2 minutes, ça suffit, hein, je crois, pour celui-là. Donc, défenseur de l'année, Lucas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose
non.
à dire
non. Je pense que il n'y a pas vraiment Keenan Williams pour bon non pardon non mais Nick Bosa en effet et puis j'ai presque envie de résumer en disant le meilleur défenseur dans la meilleure défense de la ligue. Une fois qu'on a dit ça, il a été bon toute la saison. Il est vraiment très important. Il a joué quasiment tous les matchs. Je réfléchis parce que c'est pas un joueur qui particulièrement.
C'est vrai, il a toujours des petits pépins, mais ouais. Là,
mais
priori,
bon, il doit pas être très loin en tout cas d'avoir joué tous les matchs, qui est déjà une bonne chose pour lui. Voilà, que dire de plus si ce n'est que derrière en plus TJ Watt a été blessé. Si on prend voilà cela, TJ Watt a été blessé, Mika Parsons peut-être avait commencé sur la même dynamique qu'il avait terminé l'année dernière, puis ça s'est un peu calmé. Keenan Williams ça a été très bon aussi, mais est-ce que ça vaut un bon voilà, on tourne un peu autour du pot, mais oui. Comme tu l'as dit, il y a pas vraiment de surprise.
Après oui, moi je dirais comme certains dans le chat, dommage pour la blessure de TJ Watt, parce que sur l'influence, je crois que TJ Watt c'est assez incroyable le rayonnement qu'il a à Pittsburgh, à quel point il change cette défense quoi, c'est vraiment incroyable. Là où tu te dis que San Francisco, avec les qualités qu'il y a autour, le coaching, etc., pourrait surnager sans lui, serait pas aussi dominante, mais aurait une bonne défense. Pour Pittsburgh, c'était un tel écart entre avec et sans TJ Watt, c'était délirant. Donc je trouvais qu'on aurait pu, ce serait pas immérité qu'il, alors il est tenant du titre. Hein, donc.
Et surtout, ce qu'on dit souvent, c'est que une défense, notamment les lignes défensives, quand on a des très bons joueurs autour, on peut pas mettre toutes nos forces sur Nick Bosa, parce que si on met toutes nos forces sur Nick Bosa, il y a pas mal de joueurs du côté de San Francisco qui vont pouvoir nous faire du mal. Donc il faut un petit peu, là où certes la ligne défensive de Pittsburgh est bonne, mais elle est pas aussi bonne que celle de, donc on peut un peu plus se concentrer sur TJ Watt, et donc il peut avoir un peu moins de marge de manœuvre que peut l'avoir un Nick Bosa. C'est toujours la même chose, est-ce que c'est le joueur qui rend les autres meilleurs autour, ou est-ce que c'est les autres qui le rend meilleur, mais c'est vrai que en tout cas, s'il avait fait une saison complète, ça aurait pu se poser la question. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat.
Je m'excuse, j'ai oublié un S à Mika Parsons. J'ai écrit trop vite. Non, mais voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur l'année exceptionnelle de Nick Bosa, 18 sacs et demi, meilleur sackeur de la NFL, dans une des défenses qui gagne. J'ai vu d'autres noms passer, etc., sur le chat, mais il faut quand même que je trouve ça significatif quand même que la défense performe dans son ensemble. C'est-à-dire que moi, je veux bien, c'est qu'on me dise oui mais un tel il a été bon sur les stats avancées ou sur machin, mais si la défense elle prend le bouillon
oui disons que oui c'est un sport collectif certes, et un joueur tout seul peut pas tout faire, mais en même temps c'est aussi en effet l'influence qu'il peut avoir sur les autres et tout, qui peut être mesurable et mesurable dans ce trophée là
c'est ça. Bon, Nick Bosa en tout cas élu très facilement joueur offensif de l'année. Est-ce qu'on tombe d'accord, Lucas, que c'est genre le meilleur non-quarterback ?
Totalement d'accord. Pour moi, il faudrait même, je milite pour que ce soit officiellement le MVP hors quarterback, en fait. Globalement, on ne va pas se mentir, je ne sais pas, 9 fois sur 10, le MVP va être quarterback. Et du coup, derrière, c'est compliqué. Donc, je suis assez d'accord pour dire que le joueur offensif, c'est le meilleur joueur offensif, si on enlève les quarterbacks.
Alors, il y a évidemment un nom de receveur des Vikings qui revient énormément dans le chat, donc je pense que ça va pas être un gros débat non plus là-dedans, mais avant de citer lui, qui je mets en prétendant du coup ? Moi, j'avais Tyreek Hill, j'avais Travis Kelce.
Tyreek Hill, Travis Kelce, en effet, je pense que ça peut être je réfléchis à qui peut être derrière, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de running back qui ont particulièrement été bons.
Bon, alors il y a Josh Jacobs qu'on va mettre par acquis de conscience parce que c'est le coureur le plus produit. Christian McCaffrey.
Ouais, j'ai pensé à Christian McCaffrey parce que c'est pas peut-être pas celui qui a le plus de yards au sol, mais il y a eu le changement, c'est vrai que aux Panthers, c'est ce que véritablement je réfléchis.
Allez, je lance le sondage avec ces cinq noms là parce que de toute façon en vrai bon.
Ouais. Ah. Oui, globalement. Ah.
Qui d'autre que Justin Jefferson ? J'attendais pour donner son nom, Lucas. Bon, je pense que là, c'est évident aussi.
Bah, c'est surtout qu'on se rappelle, ici, en premier d'ailleurs, on n'était pas loin de le mettre en candidat MVP. Donc, à partir du moment où...
Oui, on lui a bien porté chance d'ailleurs.
Ouais, voilà. Parce qu'en effet, dans la foulée, il fait peut-être son plus mauvais match de la saison. Mais bon, voilà, en effet, il n'y a pas trop de débat. Les autres, Tyreek Hill a été bon, notamment pour sa première saison dans un nouveau système, pour la première fois qu'il changeait de franchise. Travis Kelce, on en a parlé. Josh Jacobs, Alors, statistiquement.
On l'a mis là pour être sympa parce voilà. que c'est le meilleur coureur de la saison. Mais Jefferson a été exceptionnel. Il a vraiment été le moteur de l'attaque des Vikings. Une équipe qui gagne 14 matchs. Enfin voilà, si on dit c'est un MVP non quarterback, tu peux, comme tu disais, moi pour l'avoir défendu comme MVP à un moment de l'année, je vais difficilement dire autre chose que Justin Jefferson. Après, vraiment Tyreek Hill pour moi était dans la discussion jusqu'à ce qu'ils perdent cet élan en fait de début de saison où ils étaient, où ils planaient un peu, où ils avaient gagné, je crois ils étaient à 8-3 ou quelque chose comme ça, où Tagovailoa jouait bien en début d'année, etc. Ils avaient vraiment un truc hyper fun et je pense que Tyreek Hill était dans la course à ce moment-là. Après ça s'est vraiment beaucoup essoufflé. Donc je pense que vraiment tout ça en fait fait que Jefferson est un peu candidat unique entre guillemets parce que bah même McCaffrey, je veux dire la première saison partie de saison du coup est quand même pas incroyable quoi et même avec les Niners, il y a un petit temps d'adaptation et l'équipe est tellement fournie qu'ils ont pas tout le temps besoin de s'appuyer à fond sur lui. Donc
non mais c'est ça. Et puis après bon pour le coup Justin Jefferson c'est comme tu l'as dit c'est peut-être ce choix-là, c'est pas forcément un choix par défaut non plus.
Parce que
en temps normal, même s'il y avait eu un très bon running back et tout, il aurait été dans la course parce qu'il fait une très belle saison. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de concurrence là.
Et le choix est validé par le chat. 63% de vote pour Justin Jefferson, joueur offensif de l'année. On termine avec évidemment le MVP qui va se jouer là pour le coup quasiment contre des quarterbacks. Hein, je pense que je ne dis pas de.
Mais c'est pour ça qu'il faudrait tout simplement le meilleur quarterback de la ligue, appeler ce trophée le meilleur quarterback de la ligue.
Oui, je pense
non,
que.
Après, c'est vrai que c'est un peu dommage quand un running, un receveur. Mais bon, globalement, c'est le problème des receveurs, c'est que la balle, elle vient toujours de la part d'un quarterback. Donc on va toujours avoir. Toujours privilégier le quarterback plutôt que le receveur.
Bon, alors là, tu sais quoi, je vais mettre.
Mais tous les quarterbacks de la ligue.
Ouais, j'étais en train de me dire, j'en mets un autre pour la forme, juste pour rire. Non, là on va m'incendier si je mets celui-là. Bon, j'en mets que 4. Bah, allez, soyons francs. Mahomes, Allen, Hurts, Burrow.
Mahomes, Allen, Hurts, Burrow, oui. C'est, je réfléchis à qui.
J'oublie quelqu'un d'évident, mais. Bon, allez, pour la forme. Hop, commencez le sondage. Et n'oubliez pas d'actualiser si vous voulez voir le sondage. Oui, c'est un top 5, ils vont devoir voter. J'ai mis Tom Brady, je sais pas pourquoi, il me fallait un cinquième nom.
Écoute, je crois qu'il a une des attaques à la passe qui a été la plus prolifique cette saison. Donc.
Voilà. Est-ce que Patrick Mahomes là est en train d'écraser le scrutin et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas logique? 67,1% de passes complétées, 5250 yards, il est premier sur les yards, 41 touchdowns à la passe, il est premier sur les touchdowns à la passe.
En fait, globalement, si on prend les meilleurs quarterbacks que tu as pris là, Josh Allen a été trop irrégulier.
Oui.
Il avait très bien commencé et d'ailleurs avait un peu éclipsé ce que faisait Patrick Mahomes. Oui. Mais pour le coup, Mahomes, parce que j'avais presque envie de dire Mahomes est monté en puissance, mais ce n'est pas forcément vrai. Il a été bon toute la saison. C'est juste que Allen était meilleur sur le début de saison, on peut le dire, oui. Mais il n'a pas réussi à tenir le rythme. Jalen Hurts a été très bon, mais il y a cette blessure et qui l'a fait manquer, je crois, 3 matchs.
Oui.
Et du coup, je pense honnêtement que sur une saison complète, peut-être par nécessité de renouveler ou je sais pas, peut-être inconsciemment, je serais allé sur Jalen Hurts. Mais là, c'est vrai, c'est dur de l'enlever à Patrick Mahomes, tant il a été régulier, bon. Et puis aussi, il faut pas essayer de prendre ce que fait Patrick Mahomes pour acquis. Mmh. Ça reste exceptionnel ce qu'il fait. C'est toujours le problème un peu avec ces joueurs comme ça.
Oui, parce que j'allais dire, besoin de renouveler, t'es dur, il est encore jeune et surtout, il a qu'un seul MVP, hein. C'est pas encore
Michael Jordan. Oui, non, mais c'est-à-dire, oui, oui, bien sûr. Non, mais parce que, bah oui, il est tombé sur Lamar Jackson qui faisait la saison, une saison énorme. Il y a Aaron Rodgers qui est sur deux titres de MVP consécutifs, si je me trompe pas. Donc, mais c'est, donc du coup, il a qu'un titre d'MVP et en même temps voilà, je trouve que c'est un peu comme à l'époque Tom Brady, on a tendance à un peu normaliser l'exceptionnel, mais c'est vrai qu'il fait une saison incroyable, Patrick Mahomes.
Ouais, moi ça me semble maintenant ultra logique, hein, que ce soit Patrick Mahomes qui l'est, c'est le voilà, 69% de vote sur le chat, il est élu MVP du chat. Franchement, ça me semble assez évident, au sens où, comme tu le disais, il a banalisé, il fait partie de ces joueurs qui banalisent l'incroyable, c'est le meilleur joueur de l'équipe qui est tête de série numéro 1 dans une AFC qui est quand même pas donnée. Donc voilà, ça me semble ultra, ultra logique. Jalen Hurts deuxième, ça me semble logique aussi, du coup, parce qu'il est, est le MVP de cette équipe des Eagles, qui est une excellente équipe, mais je pense pas qu'il soit au niveau de Mahomes, à la fois dans le niveau de jeu et dans l'influence sur le résultat de l'équipe, tu vois.
Oui, encore que quand il n'a pas été là, ça a perdu trois matchs.
Tu as bien raison. Ça n'a pas été facile sur la fin d'année, en effet. Et juste sur Joe Burrow, Josh Allen, je trouvais intéressant que tu dises que Allen, ça a bien commencé, ça s'est un peu essoufflé. Burrow, ça a été un peu l'inverse, ça a commencé difficilement. On rappelle, mine de rien, qu'il avait été opéré de l'appendicite et que c'est pas des trucs qui sont si anodins que ça, quand même, je pense, dans une préparation, parce que tu te fais quand même ouvrir un peu le ventre et que c'est pas idéal. Donc,
il avait manqué une partie aussi de la prépa, ce qui est obligé aussi à manquer une partie de la préparation.
C'est ça. Donc, et puis après, il faut quand même prendre des chocs assez violents. Donc, même si l'appendicite, c'est pas une opération à cœur ouvert, mais bon, t'as pas tout de suite envie de te prendre des coups de poing dans le bide, quoi. Donc voilà. Donc lui est monté en puissance et a fait un peu l'inverse de Josh Allen. Mais je voyais des gens dire l'an prochain, Joe Burrow, etc. On lui souhaite, mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça semble plutôt logique. Ce sera donc Patrick Mahomes. Je rappelle donc les trophées. Mahomes MVP, Justin Jefferson, joueur offensif de l'année, Nick Bosa, joueur défensif. Pour le rookie offensif, c'est notre seule différence entre nous et le chat, grosso modo, puisque vous avez lu Chris Olave, nous on était plutôt sur Garrett Wilson. Rookie défensif, Sauce Gardner, coach Brian Daboll. Voilà pour les trophées.
Je suis assez déçu, on n'a pas parlé d'un trophée, le trophée qui est basé sur le moins de choses possible, c'est le trophée de Comeback Player de l'année.
Je savais pas quoi faire, en fait. On peut le faire à l'arrache si tu regardes. Je vais créer un sondage. Alors.
Mais de toute façon, on peut mettre n'importe qui, là. De toute façon, il n'y a qu'une règle, c'est que les rookies ne sont pas éligibles, ce qui est assez logique.
T'as Geno Smith qui revient pas de blessure, mais qui revient au niveau.
Il y a Saquon Barkley qui revient de blessure.
Qui revient de blessure.
Christian McCaffrey qui revient au premier plan. Mais
il était tout le temps blessé, McCaffrey. Ça
oui,
compte comme
du coup, par
blessé premier plan. Ouais, très bien.
Par définition.
Il y a Tom Brady qui revient de la retraite. Hein.
Oui, c'est un comeback.
Et puis Lacon Treadwell qui revient dans mon cœur tous les ans dans un practice squad. Donc je vais lancer le sondage. Vous avez 2 minutes pour nous élire le comeback player de l'année. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voir les résultats. Hop là. Ah bah non, j'ai terminé le sondage, c'est malin, j'ai fait une fausse manip.
Le symbole de ce
alors attends, il faut que je la refasse, rien. Comeback de l'année. Oh là là, le pas doué, je me disais, j'ai cliqué sur un mauvais truc, ça fait pas comme d'habitude. On a dit Geno Smith, on a dit Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Tom Brady et Laquan. Treadwell. Donc je commence le sondage, je clique sur voir les résultats, j'ai cliqué là-dessus, j'ai cliqué au milieu tout à l'heure, terminer le sondage bêtement, voir les résultats, voilà, et c'est ça qui me permet de vous afficher en gros. Voilà, donc Geno Smith, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Tom Brady, Laquan Treadwell, je vois que pour l'instant personne ne va vers Laquan, faut dire qu'il n'a pas été très impressionnant. Ah, 2 voix quand même, 3 voix quand même. J'ai oublié Jared Goff.
Oui, Jared Goff, c'est
j'ai oublié
vrai.
Jared Goff, qui revenait ni de blessure ni de rien non plus, mais c'est un peu comme Geno Smith, quoi.
Ouais, c'est ça.
Toi, tu voterais pour qui en vrai?
Alors, je viens de voter parce que je fais mon travail à chaque fois. J'ai voté pour Geno Smith. Pour moi, ça se jouait entre Geno Smith et Saquon Barkley. Pour moi, Saquon Barkley, c'était vraiment de la blessure, mais le potentiel a été toujours là. Et on s'est toujours dit, pour moi, je me suis toujours dit, il peut revenir. Geno Smith, je n'avais plus du tout espoir de quoi que ce soit. Pour moi, c'était un mauvais joueur ou un joueur moyen et baste. Et comme on dit, et puis là, j'ai été impressionné, surpris. Et donc, voilà, quitte à donner un trophée en plastique, autant le donner à Geno Smith, parce qu'il a été bon cette saison.
Moi, j'ai voté Barkley pour Treadwell pour rigoler, mais je dirais Geno Smith aussi. Mais j'aime bien à quel point ce trophée veut rien dire. Donc, dans le chat, je sais même pas si vous êtes premier ou second degré, moi je sais plus. Mais on nous propose du Daniel Jones qui revient de nulle part, on nous propose Trevor Lawrence. Donc je suppose que c'est parce qu'il revient d'Urban Meyer, quoi. Ouais. Mariota pour le comeback raté, parce que c'est vrai qu'ils disent comeback player de l'année, mais ils disent pas si le comeback est réussi ou pas.
C'est le best comeback, c'est juste le comeback.
Voilà. Il y a des trucs. L'année prochaine, un bon Lamar Jackson. Oui, là il a une option, Lamar Jackson, clairement. Clairement, il a une option. Bon, en tout cas, vous êtes plutôt, vous allez sur Geno Smith. Carson Wentz, ah oui, là c'est, non ça c'est pour un, oui c'est pour les flops là. Carson Wentz, c'est plus dur. c'est truqué. Bah oui, désolé, on peut pas voter. Là normalement c'est bon, c'est reparti. L'année prochaine pour Damar Hamlin. Ah oui, Damar Hamlin, il met un orteil sur le terrain l'an prochain, c'est gagné. Hein.
La belle histoire.
Normalement, Deshaun Watson. Tiens, c'est vrai que peu d'affection pour Deshaun Watson en comeback de l'année. Hein. Geno Smith, vainqueur à 56%. Voilà pour le trophée de comeback. On l'a fait. On a été complet comme ça. Merci beaucoup, Lucas.
toujours un plaisir. Et puis on s'approche de la fin. Profitez bien des deux derniers matchs. On a un beau dimanche quand même.
Ouais, on a un très beau dimanche. On se retrouve très bientôt, Lucas. En tout cas, merci beaucoup. On a des podcasts. On a un podcast ensemble cette semaine.
Je suis pas sûr. Je suis pas à l'abri d'être sur un jubilé de cette saison. Là, j'ai pas regardé
les dates. Non, tu dois bien y avoir d'autres trucs. On va trouver.
C'est possible. Je passerai peut-être une tête quelque part à un moment.
En vrai, avec toutes les previews du Super Bowl, je pense que
c'est possible.
Il y a quand même moyen. Attends, je scroll le. Ah oui, non, pas de Lucas cette semaine. Je suis en train de regarder le planning en même temps que.
Et tu me l'apprends, tu me l'officialises.
Voilà,
très bien.
Je suis allé dans mon petit onglet planning TDA et je ne t'ai pas vu en effet. Bon, après, il y a une émission de moins du coup avec cette histoire. Merci beaucoup, Lucas, en tout cas.
Avec plaisir.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.